Radio Prague, les informations.
Bonjour, la croissance de l'économie tchèque sur un an s'est établie à 4,7% au deuxième trimestre. Le président Miloš Zeman met en garde contre la régionalisation de l'Europe. En hockey sur glace, la légende Jaromír Jágr rejoint Calgary. Le référendum d'indépendance en Catalogne marque le début du processus de régionalisation en Europe, selon le président tchèque Miloš Zeman. La situation en Espagne a été discutée ce mardi en marge de la visite du chef de l'État dans la région d'Ústí nad Labem. Lors de sa rencontre avec les représentants de cette région de Bohême du Nord, Miloš Zeman a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que l'Écosse se sépare du Royaume-Uni pour rejoindre l'Union européenne. Le président n'a pas commenté les violences policières qui ont accompagné dimanche la tenue du référendum interdit sur l'indépendance de la Catalogne et qui ont fait presque 900 blessés. La croissance de l'économie tchèque sur un an s'est établie à 4,7% au deuxième trimestre de cette année. C'est ce qu'a indiqué ce mardi l'Office tchèque des statistiques, confirmant les chiffres prévisionnels annoncés au début du mois de septembre. La croissance intertrimestrielle a été de 2,5%, des chiffres qui reflètent le dynamisme de l'économie tchèque, porté à la fois par la hausse de la demande intérieure et par les exportations. Les performances dans l'industrie de transformation et pas seulement dans le secteur automobile ont largement contribué à cette croissance. Pour le ministre de l'Agriculture, Marianne Jurečka, une nouvelle législation européenne qui résoudrait la question de la double qualité des aliments pourrait être adoptée d'ici un an et demi. C'est ce que le chrétien-démocrate a déclaré ce mardi devant les journalistes. Selon lui, les nouvelles normes voulues par Bruxelles ne sont pas suffisantes pour régler la question. Il a donc adressé une lettre à Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et à des eurodéputés afin qu'ils mettent au point une nouvelle législation de défense des consommateurs. La dépendance au jeu, qu'il s'agisse du jeu en ligne, des paris ou bien des machines à sous, est un phénomène qui se développe en République tchèque. C'est le constat du Centre de contrôle national des drogues et des addictions qui a publié lundi les résultats de son rapport annuel sur la question. En 2016, il y avait, selon ce texte, quelques 120 000 personnes dépendantes au jeu en Tchéquie et près d'un demi-million de Tchèques auraient un comportement à risque. L'an passé, environ 1,5 milliard d'euros auraient été dépensés dans le secteur des jeux de hasard. Poète, écrivain, essayiste, metteur en scène et traducteur, František Listopad est mort ce lundi à Lisbonne à l'âge de 95 ans. L'information a été communiquée par l'ambassade tchèque au Portugal, pays où František Listopad a été installé depuis la fin des années 50 après avoir vécu pendant une dizaine d'années en France. Ancien directeur du Théâtre national de Lisbonne, František Listopad a été récompensé pour son œuvre au Portugal comme en République tchèque. En 2007, il a reçu le prestigieux prix littéraire tchèque Jaroslav Seifert pour son recueil de poèmes intitulé « Rosa Definitiva ». Jaromír Jágr, légende tchèque bien vivante du hockey sur glace, n'a pas encore raccroché les patins. Le joueur de 45 ans, qui évoluait jusqu'alors sous les couleurs des Florida Panthers, a signé un contrat d'une saison avec les Flames de Calgary. C'est sa 9e équipe au sein de la prestigieuse Ligue nord-américaine de hockey, mais sa première au Canada. Côté météo, le temps restera frais et automnal. Mercredi, jour de la fête des František, le ciel sera très nuageux sur l'ensemble du territoire avec quelques timides éclaircies. Les températures seront comprises entre 11 et 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Radio Prague. Merci tout d'abord à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Au programme ce mardi, on parle des femmes en politique et combien seront-elles à intégrer la Chambre des députés à l'issue des prochaines législatives dans quelques semaines. Encore trop peu sans doute, mais peut-être un peu plus que par le passé, on le verra dans un instant. Il sera aussi question d'un nouveau festival de théâtre, Carrefour Pragois, qui promeut l'idée de mettre en avant les valeurs que portait l'ancien président Václav Havel. Enfin, on se demandera dans notre rubrique Panorama comment il est possible de vivre avec le salaire minimum en République tchèque, avec la journaliste Sacha Hulova qui a tenté l'expérience en enchaînant les petits boulots pendant 6 mois. Bonne écoute à tous et à toutes. La Chambre des députés, dont le mandat s'achève, compte légèrement plus d'un cinquième d'élus femmes. C'est peu et c'est moins que la moyenne européenne. La situation pourrait toutefois s'améliorer avec les législatives organisées dans quelques semaines. Selon une analyse réalisée par l'organisation Forum 50%, sa directrice Jana Smigel-Skavková nous a expliqué pourquoi.
Sur la liste électorale que nous avons analysée, il y a par rapport au scrutin précédent davantage de femmes, d'une part de façon générale, mais également sur les places éligibles en tête de ces listes. Et cela est principalement vrai pour les partis qui, d'après les sondages, arrivent en tête des préférences des électeurs. C'est le mouvement ANO, le Parti communiste et la social-démocratie, où l'amélioration est significative par rapport aux dernières élections. Donc on peut prévoir qu'il y aura relativement plus de femmes députées après la législative.
En 2013, 26,9% des candidats étaient des femmes. 4 ans plus tard, ce pourcentage est de 28,6%, mais il reflète des réalités très différentes entre les régions et entre les formations politiques sollicitant les suffrages des électeurs tchèques. Les partis présentant le moins de femmes sont les Pirates et le mouvement libéral Svobodny. À l'inverse, les Verts sont une nouvelle fois les meilleurs élèves en termes de parité hommes-femmes, et il y a une bonne raison à cela.
Les Verts appliquent un système interne au parti de quotas obligatoires qui définissent d'une part le niveau de représentation des femmes et des hommes, mais aussi leur position sur la liste électorale. Pour chaque trio de candidats, il doit y avoir un représentant du sexe opposé. Grâce à cela, les Verts ont une représentation équilibrée du nombre d'hommes et de femmes en tête de leur liste électorale.
Pour la première fois, les sociaux-démocrates appliquent un système similaire pour les législatives avec des quotas de genre qui ne sont toutefois pas contraignants en termes de positionnement sur les listes. Le parti a donc plus de candidates, mais la plupart ne se trouvent pas sur les places éligibles. La pratique est répandue parmi les partis politiques et explique pourquoi la proportion de femmes élues est toujours plus faible que celle du nombre de candidates. Si les quotas internes aux formations politiques font avancer le Schmilblick, la plupart des partis rechignent à s'en doter. Pour l'organisation Forum 50%, c'est donc la loi qui devrait fixer ces quotas.
Depuis longtemps, nous nous efforçons de promouvoir le vote d'un amendement sur la loi électorale pour que la loi oblige les partis à proposer une représentation équilibrée de femmes et d'hommes sur les listes électorales. Cette proposition était soutenue par l'ancien ministre en charge des droits de l'homme, Jiří Dienstbier, au sein de l'actuel gouvernement, mais malheureusement, celui-ci ne l'a pas validée. Mais nous continuons à soutenir une telle loi car c'est la voie la plus rapide et la plus efficace. Elle a été testée de par le monde et elle fonctionne.
Forum 50% soutient des quotas qui garantiraient une représentation des femmes sur les places éligibles des listes électorales d'au moins un tiers de leur total, un seuil jugé comme critique pour qu'un groupe d'intérêt puisse défendre efficacement ses positions. Mais d'après Jana Smigel-Skavková, le système des quotas suscite d'importantes réserves dans un pays comme la République tchèque où, du fait de son histoire récente, il est considéré par certains comme de l'ingénierie sociale. Dans l'immédiat, il y a d'après Forum 50%, une autre façon d'envoyer des femmes à la chambre basse du Parlement, c'est tout simplement de voter pour elles sur les listes électorales avec l'outil du vote préférentiel.
C'est la seule manière pour les électeurs et les électrices de pouvoir soutenir les femmes aux élections. Les votes préférentiels ont contribué au fait qu'en 2010, nous avons obtenu la plus grande représentation de députés femmes jusqu'à présent. Et ce résultat a été justement possible parce qu'elles ont reçu un grand nombre de votes préférentiels, le soutien direct des électeurs.
On passe à un tout autre sujet. Ce lundi a débuté la première édition d'un nouveau festival international de théâtre, Pražské křižovatky, Carrefour Pragois. Jusqu'à dimanche, le public pragois peut découvrir les projets de compagnies renommées dans l'Europe entière qui s'intéressent dans leurs œuvres à différents problèmes politiques et sociaux. Organisée par le Théâtre National, cette manifestation veut rendre hommage à l'écrivain, dramaturge et ancien président de la République tchèque, Václav Havel. C'est un sujet signé Alžběta Rušková.
Le festival a débuté ce lundi soir avec la représentation intitulée Lippi de la compagnie irlandaise Dead Center qui retrace l'histoire de quatre femmes qui décident de faire une grève de la faim. Cette première édition fait suite à une édition zéro organisée l'an dernier dans le cadre d'une série de manifestations dédiées à Václav Havel qui aurait fêté en octobre 2016 ses 80 ans. L'objectif de cet événement n'est pourtant pas de rejouer les pièces de Havel, mais de présenter au public tchèque ses idées et ses valeurs à travers les œuvres de différentes compagnies du monde entier, comme l'explique la directrice du festival Marta Ljubková.
Les idées de Václav Havel en rapport avec la vie publique et l'art ont été si fortes que nous pouvons y trouver un nombre inépuisable de thèmes à présenter. Nous n'avons pas eu beaucoup d'autres personnalités comme lui dans l'histoire du théâtre tchèque. Ne pas mettre Václav Havel à l'honneur au théâtre serait donc un sacrilège.
Toutes les pièces choisies mettent donc en scène d'une manière ou d'une autre des thèmes clés de Václav Havel, comme la lutte contre les injustices et les violations des droits de l'homme ou l'invitation à la tolérance. Pour la conseillère dramaturgique du festival, Sodia Zupan-Slotkerova, le théâtre est en effet un espace qui doit permettre aux spectateurs de s'amuser et de réfléchir à la fois.
Nous avons voulu présenter au festival des projets qui sont intéressants non seulement par l'histoire qu'ils présentent, mais aussi par leur forme. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de théâtre classique avec des mises en scène de pièces écrites. Nous avons choisi des représentations qui sont nées directement lors des répétitions.
Parmi les invités phares des Carrefour Pragois figure le metteur en scène italien Romeo Castellucci avec sa pièce « Démocratie in America ». Le spectacle présenté par la compagnie Societas Raffaello Sanzio qui pose des questions sur la liberté de l'individu en combinant le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques sera à voir ces jeudis et vendredis. De son côté, l'ensemble slovène Beton LTD proposera à la nouvelle scène du Théâtre National sa pièce Ich kann nicht anders, je ne peux pas autrement, une représentation cherchant la réponse à la question de savoir quoi faire avec sa propre existence dans un monde globalisé. Sodia Zupan-Slotkerová poursuit.
Nous voulons inviter le public notamment à la pièce Riding on a Cloud de l'artiste roumain Rabbi Mroué qui sera présentée dimanche. Rabbi Mroué est une personnalité importante du théâtre contemporain. Il apparaît aujourd'hui dans tous les livres sur l'histoire du théâtre. Nous sommes très contents de l'avoir à Prague. La représentation qui raconte à travers les yeux d'un personnage l'évolution politique au Liban est très intéressante car elle se trouve aux confins de la réalité et de la fiction. Il s'agit d'un projet sans équivalent en République tchèque.
Něco, co jinak v Čechách neuvidíme. Elle était, Elit, c'est le nom d'une autre pièce qui sera présentée à Prague samedi par le Théâtre National Slovaque, mise en scène par le célèbre homme de théâtre tchèque Jiří Havelka et qui porte le sous-titre « Le passé devant nous ». Ce spectacle se veut un portrait psychologique des personnes qui, après la révolution de velours et la chute du communisme en Tchécoslovaquie en 1989, ont su profiter de leur position et de leur accès aux informations pour mieux s'intégrer dans ce nouveau monde.
Kto sú dnešné elity? Dozviete sa v novej inscenácii činohry SND. Minulosť je pred nami.
Outre les représentations théâtrales, le festival organise aussi différents débats, conférences, ateliers et rencontres avec des auteurs portant notamment sur la fonction et le rôle du théâtre dans la société.
Nous sommes toujours sur Radio Prague et nous passons à notre rubrique Panorama avec Guillaume Narguet aujourd'hui.
Panorama.
Panorama.
11 000 couronnes par mois, environ 423 euros, est le montant du salaire minimum que les entreprises en République tchèque sont actuellement tenues de verser à leurs employés. Malgré une revalorisation de 1 200 couronnes, soit près de 46 euros prévue à compter de janvier prochain, cette rémunération minimale accordée pour un travail compte parmi les plus faibles en Europe. À ce niveau-là, est-il donc possible dans un pays comme la République tchèque non seulement de vivre de son travail, mais aussi d'en vivre dignement autrement que dans la précarité? Et dans quelles conditions? Ces questions, Sacha Hulova se les est longuement posées et pour y répondre, elle a entrepris un grand reportage, le premier du genre mené par un journaliste tchèque. Durant 6 mois, Sacha Hulova a exercé sous une fausse identité plusieurs emplois dans le pays qui avaient pour commun d'être rémunérés au montant du salaire minimum. Elle a évoqué son expérience au micro de Guillaume Narguet. En voici la première partie.
Depuis début septembre, le magazine en ligne Alarme.cz diffuse une série de reportages écrits par Sacha Hulova sur la base de ce qu'elle a vécu au contact des employés de chacune des sociétés dans lesquelles elle aussi a travaillé. Une enquête qui a suscité un vif intérêt des médias et du public.
Depuis plusieurs années, je voulais écrire un reportage sur les conditions de travail en République tchèque parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui me disaient qu'ils travaillent quelque part et que les conditions ne sont pas bien. Mais ces gens-là, ils ne voulaient jamais parler de ces conditions-là pour un article. Il était bien sûr possible d'écrire un article plein de personnes anonymes qui disent « oui, c'est horrible ». On gagne peu, on travaille beaucoup, mais je sentais bien que ça aurait pas en fait l'impact qu'un reportage comme ça où les gens ne veulent pas parler sous leur nom serait pas intéressant au niveau journalistique. Donc j'ai eu cette idée. En fait, bon, c'était ma belle-sœur qui a eu cette idée, parce qu'en fait elle a une sœur qui travaille comme ça depuis des années. Donc, elle connaissait ces histoires très bien parce qu'elle l'aidait souvent à trouver un nouveau travail. Après, elle partait parce qu'elle devait se lever à 3 heures du matin. Puis après, elle n'était pas payée, des histoires comme ça. Donc, quand on a discuté ensemble de ce problème-là, elle a dit que ce serait bien de se faire embaucher, écrire après le reportage.
Depuis quelques années, la République tchèque traverse une situation de quasi-plein emploi avec un des taux de chômage parmi les plus faibles en Europe, 4% en août dernier et des entreprises qui se plaignent de la pénurie de main-d'œuvre. Sacha Ourlova admet que ce contexte sur le marché du travail a facilité son projet.
S'il n'y avait pas la situation si favorable au niveau du chômage, je serais obligée de passer beaucoup plus de temps à chercher le travail. En même temps, je pense que la situation des conditions de travail a quand même évolué dans un bon sens depuis 10 ans à peu près, justement parce que les boîtes, elles ont un problème à trouver des gens, donc les salaires ont quand même sont un peu plus élevés, les conditions de travail sont un peu meilleures, donc je décrivais pas une situation qui serait aussi horrible qu'elle aurait été si le chômage aurait été plus élevé. Et il faut dire qu'il y avait quand même une différence entre les régions. Quand j'ai cherché le travail au nord de la Moravie, j'ai eu un grave problème. J'ai passé 15 jours. Je sais que pour les gens des pays où il y a le chômage élevé, c'est horrible. Mais quand j'étais en Bohême, c'était du jour au lendemain, je pouvais trouver le travail. Alors qu'en Moravie, finalement, j'ai trouvé un travail où on m'a dit d'attendre à la maison qu'ils vont m'appeler s'ils ont quelque chose de libre pour moi. Et j'arrivais pas à trouver un travail stable dans un délai très court. J'ai senti que la situation est quand même différente à Ostrava qu'à Prague ou même au bord de la Bohème, à Teplice.
En Bohème du Nord. Quels sont les différents emplois que vous avez occupés? Et y a-t-il des différences selon justement les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé?
Il y a bien sûr une grande différence. Chaque emploi était différent de beaucoup de points de vue. J'ai travaillé dans une buanderie, dans un plus grand hôpital à Prague, et en bas, il y a une buanderie où il y a quelques dizaines de personnes qui travaillent. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui travaillent à l'hôpital en haut, ils ne savent pas souvent même que ça existe, cet endroit-là. Ils ne savent pas que les gens travaillent pour le salaire minimal. Après, donc, j'ai travaillé dans une
Drubajarna. Une usine donc d'emballage, si j'ai bien compris,
oui,
c'était d'emballage
c'est,
de volaille, de poulet.
Oui, donc une usine d'emballage de volaille de poulet. Après, j'ai travaillé dans un supermarché comme caissière. Après, j'ai travaillé dans une usine où on fabriquait des rasoirs. Et finalement, je triais des déchets à Ostrava. C'était pas un mauvais travail en fait, mais c'était dégoûtant.
Et est-ce que ce que vous avez découvert a répondu aux témoignages que vous aviez eus et qui vous ont finalement motivé à vous lancer dans ce projet?
J'ai trouvé un monde très différent de ce que j'ai imaginé. Comme avant, je parlais avec des gens qui se plaignaient et qui voulaient donc pas parler dans le journal de leur travail, je pensais que je vais trouver des collectifs pleins de gens qui se plaignent. Et finalement, j'ai trouvé des gens qui souvent aimaient leur travail, souvent se rendaient compte qu'ils font quelque chose dont la société a besoin et qui se plaignaient beaucoup moins que je pensais. Et qui étaient fiers souvent d'arriver à travailler plus d'heures qu'il est permis. Qu'ils étaient fiers qu'ils travaillent bien. Donc c'est pour ça que j'ai appelé tout le projet les héros du travail capitaliste, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'esprit révolutionnaire dans les endroits où je travaillais.
Sacha Ourlova ne s'en cache d'ailleurs pas. Une politique de rémunération minimale n'est pas forcément synonyme de mauvaises conditions de travail. Le traitement réservé par certaines entreprises à leurs employés aurait d'ailleurs pu quelque peu entraver son projet.
Ça, j'ai trouvé aussi que c'est très différent. J'étais très bien surprise, par exemple, dans l'usine où je travaillais au nord de la Bohème. En fait, j'étais là dans deux usines. Mais dans une, j'étais seulement une seule journée parce que c'était tellement idéal et parfait que j'avais pas de raison de retourner. Et dans l'autre, il y avait un problème, qu'il n'y avait pas la climatisation. Et il faisait très chaud, donc c'était très fatigant et on travaillait 12 heures. Mais à part ça, la manière dont les chefs traitaient des employés, c'est très très différent, par exemple, de l'endroit où on emballait la viande ou gueulait dessus. Je me sentais vraiment un peu comme un... Je savais, en fait, tout le temps, je savais que je suis journaliste et que je suis là seulement pour un certain temps. Mais il y avait des moments dans l'usine, dans l'emballage, où j'avais l'impression que j'arriverais pas à rester les 3 semaines que je voulais. C'était tellement dur, l'expérience. Donc après, quand je suis allée dans des endroits où on me traitait avec un peu plus de dignité, je sentais beaucoup la différence, que c'est très important. L'argent, c'est une chose, c'est très important pour les gens. Et c'était pas un problème pour moi, parce que moi, j'ai eu de l'argent pour ma famille. J'étais payée pour faire ces reportages-là. Mais la façon dont on traite les gens, c'est un autre chapitre que je trouve très, très important aussi.
Voilà, vous pourrez entendre ou lire la suite du témoignage de Sacha Ourlova dans le prochain Panorama. Ce sera mardi prochain.
Voilà, c'est avec le témoignage de la journaliste Sacha Ourlova qui a passé 6 mois à enchaîner les petits jobs payés au salaire minimum que s'achève aujourd'hui notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et maintenant sur Instagram. À très bientôt les amis, ahoy.